destination en commun.
Bonjour et bienvenue dans les podcasts Ilévia. Je suis Gaëlle et je serai votre compagnon de voyage dans cette chaîne de podcasts. À travers différents épisodes, différentes thématiques, vous allez découvrir les coulisses du Vélil, du métro, du tram, des bus. Nous allons aussi vous partager des conseils, des témoignages et des paroles d'experts. Bref, nous allons mieux comprendre le fonctionnement des transports en commun de la métropole européenne de Lille et vous l'aurez compris, nous avons beaucoup de choses à nous raconter. Aujourd'hui, nous sommes avec Sylvain, coordinateur exploitation et sécurité des salariés chez Ilévia. Et ensemble, nous allons parcourir les bonnes pratiques sur la route et bien se rappeler que piétons, cyclistes, conducteurs, on partage plus ou moins tous la même route, ou en tout cas, on doit composer ensemble pour être en sécurité, ce qui veut dire qu'on a tous intérêt à être prudents et responsables chacun à sa manière. Bonjour Sylvain.
Bonjour.
Pour parcourir le sujet, je vous propose de répondre à des questions que l'on a enregistrées au préalable avec des usagers et on commence tout de suite avec la première question.
Moi je suis cycliste, qu'est-ce que je dois faire pour partager la route en toute sécurité avec les autres?
Alors, dites-moi Sylvain.
Alors, moi je vais me permettre de prendre cette question sous l'angle du conducteur de bus, la manière dont lui perçoit les autres usagers de la route.
Très bien.
Un des premiers points, du coup, quand on est cycliste, et ce qui est extrêmement important par rapport à un conducteur de bus ou un autre usager de la route, je pense, c'est d'être visible. Lorsqu'un cycliste porte un gilet haute visibilité, donc les gilets jaunes fluo ou orange, un autre usager de la route va pouvoir le voir à plus de 100 mètres, voire même à 160 mètres quand il fait nuit. À l'inverse, s'il est habillé en couleur normale, il va pas être visible à plus de 30 mètres. Donc la première chose pour bien partager la voirie, c'est d'être visible, surtout quand on est un usager, dit usager vulnérable, comme un cycliste. La deuxième chose, qui est très importante aussi, c'est de bien signaler ses changements de direction. Lorsque vous tournez à droite, à gauche, que le cycliste montre bien qu'il veut aller dans cette direction-là, ça va rassurer notre conducteur, ça va lui permettre de pouvoir anticiper ce mouvement-là. Le troisième point, c'est lorsqu'il y a plusieurs cyclistes qui roulent de front, il est indispensable, lorsque un véhicule arrive, qu'il se rabatte et qu'il se mette en file indienne, simplement parce que les routes ne sont pas extrêmement larges, et un bus, ça fait 2,55 m de large. Pour donner un petit aperçu, un vélo, ça fait approximativement 70 cm de large, donc vous mettez trois vélos les uns à côté des autres, et ça vous donne grosso modo la largeur d'un bus. Donc pour vous doubler, ça devient extrêmement compliqué pour un conducteur de bus de vous doubler. Le quatrième point que j'ai envie de mettre en avant, ça rejoint le troisième, justement, c'est comment bien se rabattre, parce que voilà, ce qui est important, c'est aussi que vous puissiez entendre. Et donc, nos conducteurs disposent de deux types de klaxons. Ils ont un premier gros klaxon, qu'on pourrait appeler le klaxon type klaxon de camion, quoi. Ça parle à tout le monde, ça. Et un deuxième type de klaxon qui est ce qu'on appelle chez nous un klaxon écologique, qui ressemble à une espèce de clochette. Le bruit de ça est pas là pour vous faire peur, mais là pour vous dire, attention, il y a derrière vous un bus qui est en train d'arriver. Prenez le temps de vous rabattre et de rester sur votre ligne. Ça vous permettra de continuer à rouler en toute sécurité. Et le cinquième conseil que je pourrais donner, et je pense que ce sera le dernier, c'est toujours en lien avec l'audition, ne portez pas d'écouteurs. Simplement parce que les écouteurs, ça vous isole complètement du bruit environnant. En résumé, vous devez être bien vu, bien visible, bien identifier vos changements de direction, rester en file indienne autant que faire se peut, et toujours être à l'écoute de votre environnement.
Eh bien, merci Sylvain pour ces cinq conseils. On va continuer tout de suite avec la deuxième question.
Qu'est-ce que le conducteur voit sur la route quand je suis à pied et que je veux traverser?
La première chose à savoir par rapport à cette question-là, c'est que lorsque vous voyez un bus, gardez toujours à l'esprit qu'un conducteur de bus vous voit beaucoup moins bien que ce que vous ne le voyez. On a l'impression, à première vue, qu'un conducteur de bus a une excellente visibilité parce qu'il a un pare-brise qui est énorme, qui fait 2,50 m, comme je le disais, de large. Sauf que c'est pas le cas. Il a également des montants latéraux qui créent des masques à la visibilité. Donc, à l'approche de véhicule, soyez toujours vigilant.
Très bien. Alors, effectivement, vigilance, on parlait aussi de vigilance par rapport aux angles morts, donc il y a quelques minutes. Je propose qu'on écoute cette nouvelle question.
D'après les autocollants à l'arrière des bus, je comprends bien qu'il y ait des angles morts. Mais concrètement, qu'est-ce que le conducteur voit vraiment?
Alors, donc, on en parlait déjà, on avait donné quelques bribes sur la question d'avant. Est-ce qu'on peut élargir un petit peu le sujet des angles morts?
Oui, tout à fait. Déjà, je vais rappeler brièvement ce que c'est qu'un angle mort. C'est la zone invisible du champ de vision du conducteur. Quand vous êtes automobiliste ou quand vous êtes cycliste, pour neutraliser un angle mort, c'est très simple, vous tournez la tête rapidement à gauche ou à droite et vous voyez ce qu'il y a derrière vous. Lorsque vous êtes conducteur, ça, en fait, vous ne pouvez pas le faire. Comme je le disais tout à l'heure, un bus, ça fait 2,50 m de large. Ça fait 12 mètres de long. Alors très rapidement, hein, une voiture, c'est grosso modo 1,80 m et 4 mètres de long. Donc un bus, c'est 3 voitures, les unes derrière les autres, à peu près. Donc vous comprenez bien qu'un conducteur, lui, lorsqu'il a un angle mort, il ne peut pas tourner sa tête à gauche, tourner sa tête à droite, pour aller neutraliser cet angle mort. Ça nécessiterait de sa part qu'il sorte la tête par la fenêtre, du côté gauche, et que de l'autre côté, côté droit, il descende de son poste de conduite, et puis il aille bien voir ce qui se passe.
Donc, pas facile.
C'est pas forcément évident, c'est voire même complètement impossible. Il faut savoir qu'un conducteur de bus ne peut pas voir quelque chose qui mesure, quelque chose ou quelqu'un, qui mesurerait moins d'un mètre de haut, et qui passerait devant lui. Donc un enfant qui perd son ballon sur un passage piéton et qui va pour courir après, une poussette, quelque chose comme ça, un conducteur ne peut pas le voir. Les deuxièmes angles morts qui sont extrêmement prégnants, ce sont les angles morts latéraux. Il faut savoir que le rétroviseur du bus, lui, va avoir un cône de visibilité qui est assez restreint, et du coup, tout le reste de son environnement, le conducteur ne le voit pas. Donc si vous êtes situé à proximité du bus, par exemple, je ne sais pas, au niveau de la porte du milieu, et que vous êtes situé à 2 mètres du véhicule, le conducteur ne vous verra pas. Et le dernier, évidemment, c'est qu'il n'y a pas de rétroviseur interne pour voir à l'arrière du bus. Donc tout ce qui est situé derrière le bus, le conducteur ne peut pas le voir.
Effectivement, c'est beaucoup plus clair. Ça nous donne vraiment un panorama de ce que le conducteur ne voit pas et ça nous permet d'être effectivement d'autant plus prudents. On va passer maintenant à la dernière question.
Je sais que les bus circulent en ville depuis les années 70. Quelles ont été les évolutions en termes de sécurité sur la route ?
Alors, ce qui est intéressant dans cette question, c'est que la personne qui la pose dit « les bus circulent depuis 1970 ». Alors, au niveau de la métropole de Lille, c'est pas tout à fait exact. En vrai, ils circulent depuis des années 1930. Par contre, ce qui est intéressant, c'est les années 1970 en France, c'est vraiment le moment où la sécurité routière devient un enjeu politique. Et c'est depuis les années 1970 qu'on a vu l'accélération des mesures de sécurité en matière de sécurité routière. Parce que, tiens, une petite anecdote, justement, le code de la route, il a 100 ans. Et donc, dès lors qu'on crée un code, c'est qu'on met la sécurité au cœur de nos priorités. Mais vraiment, en France, à partir des années 70, c'est là où on a commencé à voir l'obligation du port de la ceinture à l'avant, où on voit également l'obligation du port du casque pour toutes les personnes en cyclomoteur. C'est à ce moment-là qu'on voit des changements de technologie, des carrefours à feu qui deviennent beaucoup plus performants pour gérer des circulations de plus en plus complexes. À partir des années 80 également, où on commence à se poser les questions sur le lien entre l'alcool et la conduite. Et progressivement, dans les années 80, 90, 2000, on a diminué le taux légal d'alcool. On est passé de plus de 1,2 g par litre d'alcool dans le sang à 0,5, la donnée qu'on connaît aujourd'hui. Il y a d'autres évolutions dont je ne vais pas parler, mais si je reprends mon cœur de métier au niveau de la circulation des bus, c'est aussi à partir des années 80, 90, 2000 qu'on voit de plus en plus de pistes cyclables apparaître, qu'on voit également de plus en plus de couloirs bus apparaître. Et donc, on renforce progressivement la sécurité via les infrastructures. Le deuxième point, c'est que dans les années 2000 aussi, on a vu apparaître ce qu'on appelle la formation continue obligatoire de nos conducteurs. Et tous les 5 ans, nos conducteurs ont 35 heures de formation obligatoire qui a pour objectif de les re-sensibiliser, de les reformer à nouveau sur toutes les évolutions réglementaires, sur les aspects de sécurité routière, sur l'environnement, sur les nouveaux usages. Donc, en conclusion de tout ce que je viens de dire, on a des évolutions en matière de sécurité qui ne cessent de progresser, qui rendent la sécurité et la circulation plus sûres pour chacun.
Merci beaucoup, Sylvain.
Eh bien, merci, Gaëlle.
Merci, en fait, pour toutes ces réponses, toutes ces informations que j'ignorais sans doute comme beaucoup de nos auditeurs. Grâce à vous, on en sait plus et surtout, vous nous avez partagé de précieux conseils pour rester toutes et tous en sécurité sur la route. Pour être responsable, qu'on soit cycliste, piéton ou conducteur. Nous voici donc au terme de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Merci de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. Je vous rappelle qu'il est disponible sur toutes les grandes plateformes d'écoute. Et je vous donne donc rendez-vous très vite pour un prochain épisode.